Virginie Langerocq.
Bonjour, le Canada prévoit de reconnaître l'État de Palestine en septembre aux Nations Unies. Annonce faite hier par le Premier ministre canadien Mark Carney. Un changement de politique aussitôt condamné vigoureusement par Israël et critiqué aussi par les États-Unis, grand allié de l'État hébreu. Après cette décision, assure Donald Trump, un accord commercial avec le Canada sur les droits de douane sera très difficile. Et les alertes des organisations internationales sur la famine à Gaza se multiplient après 22 mois de guerre dans le territoire palestinien. Le roi Abdallah de Jordanie estime que la bande de Gaza connaît la pire catastrophe humanitaire de l'histoire moderne et que l'aide acheminée actuellement n'est pas suffisante. La Belgique vient d'annoncer sa participation à une opération internationale de largage d'aide humanitaire sur Gaza. Mais les critiques se multiplient sur l'efficacité de ce dispositif. Les Nations Unies rappellent que seul l'ouverture d'un accès terrestre permettra d'acheminer les milliers de tonnes de vivres nécessaires, toujours bloquées à la frontière. Pour Jean-Guy Watteau, coordinateur d'urgence de Médecins sans frontières, ces largages sont en tout cas coûteux, dangereux et souvent inefficaces face à une famine généralisée.
Le pont aérien ne répond à aucun problème. C'est un dispositif qui est très cher, qui présente un danger particulier aussi, hein, puisque ces parachutes-là, enfin moi j'en ai vu encore cet après-midi, certains parachutes se déchirent et donc la nourriture tombe pas du tout à l'endroit où elle est censée tomber. C'est quand même des charges de 500 à 1 kilo à 1 tonne qui tombent. Donc il vaut mieux ne pas être en dessous. Donc cette opération aérienne, oui, totalement inutile, beaucoup trop chère. Et finalement, ça n'est que de la poudre aux yeux. Ça fait de belles images de télévision, ces opérations aériennes, mais ça ne sert à rien. D'ailleurs, ces mêmes pays, la France, l'Allemagne, etc., financent l'aide humanitaire classique, financent les camions des Nations Unies. C'est par là que les quantités suffisantes de nourriture viendront.
Des propos recueillis par Miruna Coca-Cosma. Et puis Israël poursuit ses bombardements. Pendant que les pourparlers en vue d'un cessez-le-feu sont à l'arrêt, la défense civile annonce la mort hier de 14 Palestiniens, dont 10 près de 2 points de distribution de nourriture. Dans plusieurs pays du Pacifique, du Japon à l'Équateur, les alertes au tsunami ont été levées au lendemain de l'un des séismes les plus importants jamais enregistrés, survenu hier au large de l'extrême-orient russe. Des millions de personnes ont été évacuées des côtes de leurs pays respectifs sans qu'il n'y ait de dégâts majeurs ni de victimes. La traite d'êtres humains ne faiblit pas en Suisse. Plus de 200 victimes ont été recensées dans notre pays l'an passé. Ce sont 5 organisations spécialisées dans l'aide aux victimes qui ont publié ce chiffre à l'occasion hier de la journée internationale contre ce fléau. Parmi ces associations actives sur le terrain, Astrée, basée à Lausanne, sa directrice Angela Auriti précise qu'il n'y a pas que la prostitution forcée qui touche les victimes. Parfois, il s'agit de situations violentes encore plus cachées.
Par exemple, je pense à des personnes qui sont recrutées comme personnel de maison par des agences situées aux Émirats et puis viennent en Suisse travailler pour des grandes familles. Souvent, elles ont déjà commencé à travailler pour ces familles à l'étranger et puis viennent encore en Suisse où ces personnes ont des maisons secondaires, par exemple. Et puis, elles se retrouvent à travailler avec des horaires démesurés, des salaires qui varient entre 300 et 400 francs par mois. Et en plus de ça, elles sont soumises à différents moyens de contrainte comme la séquestration de documents ou alors de la violence verbale, par exemple, de la surveillance sur le lieu de travail.
Des propos recueillis par Jacqueline Pirchel. Au 1er août, un certain nombre de surtaxes doivent être imposées à la plupart des partenaires commerciaux des États-Unis. C'est le cas de la Suisse, mais à J-1 de la date butoir, toujours aucune réponse. Une attente qui met les nerfs des entreprises exportatrices suisses à rude épreuve. D'autres pays sont, eux, déjà fixés sur leur sort. Les produits brésiliens vont être taxés à 50%, annonce faite hier soir par le président Trump. Quant aux produits indiens, ils seront taxés à 25%. Le scarabée japonais continue de progresser en Suisse et il peut faire des ravages déjà implantés au Tessin. Il est présent désormais dans les cantons de Vaud et de Genève. On compte un peu moins de 20 spécimens, mais l'insecte ravageur représente une menace pour plus de 450 espèces végétales, notamment les vignes ou les fruits, les arbres de fruits à noyaux, tant son appétit est grand. L'insecte est à même de dévorer les plantes de haut en bas. À Genève, plusieurs plantes sont en quarantaine dans le canton de Vaud. Des mesures sont prises, notamment à Montreuil-Yvorne où le nuisible a été repéré sur 2 aires d'autoroute. Écoutez les précisions de l'inspecteur phytosanitaire Michel Jean-Renaud.
Alors, ils ont la particularité d'être des autostoppeurs, c'est-à-dire qu'ils profitent de différents modes de locomotion, comme des camions, des camping-cars, des voitures. On voit bien qu'ils profitent de ces différents moyens de transport pour faire des longues distances. Donc, on va délimiter une zone d'infestation dans laquelle on va interdire l'irrigation et l'arrosage, et on va limiter le déplacement des composts et des terres végétales pour limiter la contamination plus loin que cette zone. L'objectif vraiment, tout ce qu'on met en œuvre, c'est limiter son installation et freiner son expansion.
Des propos recueillis par Johan Rittner et Jacqueline Pirchel. En tennis, Belinda Bencic a battu la Canadienne Eugénie Bouchard au deuxième tour du tournoi de Montréal. La Suissesse disputait son premier match depuis sa demi-finale de Wimbledon. En football, Servette ne jouera pas la Ligue des Champions. Les Genevois se sont inclinés hier soir en match retour du deuxième tour de qualification 3-1 face au Tchèque du Viktoria Plzeň. Le risque d'incendie est en augmentation en Valais en raison de la hausse des températures et des vents soutenus. Les autorités appellent la population à la prudence, en particulier à l'approche du 1er août. Le temps est aujourd'hui ensoleillé. Il devient plus nuageux l'après-midi avec quelques averses parfois orageuses en montagne. Maximum 25 degrés. Passez une très belle journée à l'écoute de nos programmes.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Musique Matin, Sydney Fierrot.
Merci d'être avec nous ce matin. Nous avons encore une heure à passer ensemble avec une nouveauté du disque dans quelques instants. Ce sera avec la musique de Mikhail Pletnev, musique orchestrale qu'on écoutera ce matin. Et puis j'aurai le plaisir d'avoir comme invité au téléphone Christina Plouard, directrice de l'ensemble Arpeggiata, qui sera en concert à l'église de Zannen à Gstaad le mercredi 6 août prochain à 19h30. Elle sera avec nous pour nous parler un peu des coulisses, de la préparation de ce concert, du programme que vous pourrez peut-être entendre si vous souhaitez vous y rendre. C'est donc le programme de ce matin. J'aurai également des billets à vous distribuer pour ce Gstaad Menuhin Festival. Un concert notamment avec la pianiste Katia Bouniatichvili, un programme Schubert, Chopin, Mozart, Franz Liszt. C'est donc ce qui nous attend pendant cette deuxième heure de Musique Matin, jusqu'à retrouver Juliette Granier et la petite compagnie. Ça sera tout à l'heure. Thank you. Et c'était Ophélie Gaillard que nous entendions ici dans cet adagio de ce concerto en sol majeur dont je n'ai pas le nom du compositeur sur ma feuille. C'est quelque chose qu'il faut que je recherche et je vous le dirai tout à l'heure sans y manquer. Ophélie Gaillard donc avec son ensemble Puccinella que nous entendions. C'est un extrait de l'album A Night in London paru au label Aparté. Et il est 8h12, c'est le moment de la nouveauté du disque. Je vous parle ce matin de cet album consacré donc à la musique de Mikhaïl Pletnev avec le trompettiste Sergueï Nakaryakov qui est au cœur de ce nouvel album publié chez Warner Classics qui réunit donc deux œuvres de ce compositeur qui est aussi un chef russe extrêmement connu. En première partie donc de cet album, il y a un concerto pour trompette écrit en 2024 spécialement pour Nakaryakov en trois mouvements. Et puis, dans la seconde partie de cet album, c'est ce qu'on va écouter ce matin, il y a une série de 14 mémoires musicales dirigées par Pletnev lui-même. Il s'agit d'un cycle de pièces très brèves qui évoquent chacune un souvenir ou un lieu ou une image sonore. On y trouve par exemple une course de chevaux où il y a encore un hommage à Wagner, une obsession espagnole, une marche de carnaval ou encore un adieu, des variations aussi. Et donc, l'ensemble de ces mémoires forme un parcours très personnel dans l'univers musical du compositeur. C'est un album donc, qui est centré sur la transmission, la forme libre, et puis le lien entre l'écriture contemporaine et l'héritage classique. Le titre donc de cet album, c'est Trumpet Concerto et 14 mémoires musicales par Sergueï Nakaryakov et le Rachmaninov International Orchestra sous la direction de Vladislav Lavrik et Mikhaïl Pletnev. Je vous propose qu'on se plonge tout de suite dans cet album et juste après, j'aurai le plaisir d'avoir Christina Plouard, directrice artistique de l'ensemble Arpeggiata qui sera avec nous au téléphone.
Thank you.
Et nous entendions ici une course de chevaux qui était précédée d'un prélude. C'est un extrait des 14 mémoires musicales pour orchestre de Mikhaïl Pletnev, qui était ici à la fois à la tête du Rachmaninov International Orchestra et à la fois le compositeur de ses œuvres. Et c'est un extrait donc de cet album tout nouvellement paru chez Oro Arts Music International qui s'appelle Trumpet Concerto et 14 Memories de Mikhaïl Pletnev, donc, et que j'avais à cœur de partager avec vous ce matin. Il est 8h21 à l'écoute d'RTS Espace 2 et dans quelques instants, j'aurai le plaisir d'avoir Christina Plouard qui sera ce mercredi 6 août de passage à Zanen avec son ensemble, l'Arpeggiata, dans le cadre du Gstaad Menuhin Festival. Elle y présente un programme intitulé The Balkan Woods Escape to Exile, une nouvelle étape dans son exploration des musiques anciennes et populaires en mêlant culture, époque, tradition. Et oui, depuis plus de 20 ans, Christina Plouard tisse des liens inattendus entre le baroque et l'improvisation, les rythmes traditionnels et puis les voix du monde. Elle sera avec nous juste après cet extrait. Thank you. Et c'était l'ensemble Arpeggiata avec Cristina Plouard à sa tête que nous entendions ici dans la musique de Rodolfo de Maurizio Cazzati avec la Strozza, un extrait de la sonate pour deux violons et basse continue en ut majeur. Cristina Plouard, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour nous parler de votre prochain concert. On vous entendait ici dans de la musique italienne et vous allez jouer donc mercredi à Zannen, un programme qui s'appelle The Balkan Route, Escape to Exile. Alors quelle musique, quelle tradition est-ce qu'on pourra entendre dans ce concert ?
En fait, c'est un programme que j'ai conçu en 2015 quand il y avait la grande crise des réfugiés en Europe, qui dure de jour d'ailleurs, malheureusement. Mais il y avait quelque chose vraiment terrible qui s'est passé à l'époque. Il y avait une camionnette avec 70 personnes à l'intérieur qui était garée juste à la frontière autrichienne. Et toutes les personnes étaient mortes et puis les conducteurs a disparu. Et cet événement m'a tellement choquée que j'ai commencé à réfléchir à un programme en fait pour voilà pour soutenir la cause et mettre cette problématique en musique en fait. Et donc c'est un programme qui suit ce qu'on appelle la route des Balkans, c'est-à-dire la route des réfugiés depuis la Syrie jusqu'à Autriche-Allemagne, en fait, qui passe soit par la Turquie, par la Grèce, par la Serbie-Croatie jusqu'en Autriche, ou bien via la Bulgarie, Roumanie, en suivant le Danube. Et en fait, on dessine cette route musicalement, en fait, avec des invités musiciens de ces musiques, de ces régions. Là, c'est des musiciens vraiment assez incroyables, en fait, parce que c'est des virtuoses, des musiciens vraiment formidables qui sont des invités pour ce programme.
Vous avez pour habitude, dans vos albums, dans vos concerts, de mélanger à la fois la musique baroque et les musiques traditionnelles. Est-ce que ça sera le cas ici ? On aura de la musique baroque également ? Ou la musique,
on va dire. Oui ? Il y a la musique baroque aussi, parce que bon, on est tout d'abord un ensemble baroque, et puis il y a des instruments baroques aussi, comme les cornets, les luttes, les sopranos baroques et Céline Chen. Et en fait, on fait quelques pièces parce qu'il y avait des compositeurs italiens qui habitaient en Croatie, à Split et à Dubrovnik. Et donc, on rend hommage aussi à ces compositeurs-là, en fait, dans ce programme.
Et ce concert s'inscrit donc dans une des thématiques de ce festival, Escape to Exile. Quelle résonance ce thème a-t-il pour vous en tant que musicienne ? Est-ce que c'est quelque chose qui est important ?
C'est très important, évidemment. Sinon, je n'aurais pas conçu ce programme déjà depuis des années. Et en fait, je trouve ça vraiment formidable que les festivals... met un accent sur cette problématique, sur ce thème. Et on est très, très fiers de faire part de ces festivals. Notamment, c'est un festival auquel, depuis des années, on est déjà très fidèles. Et on a beaucoup, beaucoup de plaisir de revenir. Et, on a eu l'occasion déjà de donner des programmes très différents. Et donc, on est très, très heureux de pouvoir donner ce programme qui est quand même très particulier musicalement, mais aussi de philosophie et de conception.
Vous serez accompagné donc d'une équipe, d'une formation très variée, vous nous avez dit déjà, avec des instruments baroques. Est-ce qu'on pourra entendre également des instruments traditionnels de ces différentes cultures, de cette route de l'exil ?
Oui, en fait, il y a un trio de musiciens grecs, des instrumentistes qui jouent la lyra grecque, le kanoun et les outs, donc trois instruments merveilleux et typiques pour la Grèce, avec une chanteuse formidable avec laquelle on travaille depuis beaucoup d'années, en fait.
Céline Chien, donc.
Non, aussi, Céline Chien fait partie de notre ensemble baroque, mais... Oui. Le trio grec, en fait, c'est avec une chanteuse grecque.
Avec une chanteuse grecque, d'accord.
Oui, qui s'appelle Katharina Papatopoulou, qui était aussi déjà dans d'autres projets qu'on a fait, en fait. Chanteuse vraiment formidable. Après, il y a Natasha Mirkovic, qui est d'origine de la Bosnie, mais elle habite en Autriche. Et en fait, elle-même a vécu la situation du réfugié parce qu'elle est partie pendant la guerre en Yougoslavie, quand elle était très très jeune. Et puis elle est installée en Autriche, mais elle a eu une vie aussi assez incroyable. Voilà. Mmh. Et après, on a deux musiciens qui sont vraiment incroyables, c'est Petar Altchev à l'accordéon et Peyo Pev qui joue la gadulka, donc des instruments bulgares, de la tradition bulgare. Et c'est vraiment des grands virtuoses. C'est vraiment très étonnant de les écouter.
Est-ce que le fait d'aller puiser dans ces traditions balkaniques, ottomanes, séfarades peut-être même, j'imagine, qu'est-ce que ça implique dans votre travail par rapport à ce concert musicalement? Est-ce qu'il y a une autre façon d'écouter, de respirer, d'imaginer la musique?
En fait, pour nous, tous les projets qui sont à la croisée en fait des styles musicaux, c'est toujours un enrichissement incroyable pour nous, parce que on apprend tellement de choses, notamment sur l'improvisation, sur la liberté, sur des styles différents fait de musique, parce qu'on essaie aussi de croiser avec nos instruments évidemment. Donc, pour nous, c'est toujours un voyage vraiment incroyable et qui nous fait maturer comme ensemble, comme musiciens, comme artistes. Donc des fortes rencontres en fait avec d'autres cultures, avec d'autres musiciens, avec d'autres manières de penser, de jouer, de concevoir la musique qui est très 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 important pour nous tous.
Vous avez l'habitude, Christine Aploire, de parler un peu, parfois pendant les concerts, entre les œuvres. Vos concerts, en tout cas, racontent une histoire. Est-ce que vous construisez une dramaturgie intérieure? Vous laissez le public vous inspirer sur le moment? Comment est-ce que vous construisez ce fil rouge?
En fait, les programmes, bien sûr, il y a toujours une dramaturgie que j'ai construite, mais surtout aussi émotionnel en fait, parce que je trouve que dans des concerts classiques, souvent on écoute beaucoup avec la tête. Et je trouve que c'est bien si les gens sont vraiment impliqués aussi avec toutes leurs émotions, et j'aime beaucoup que les gens pleurent ou rient plusieurs fois pendant nos concerts, en fait. C'est ça les buts, parce que c'est un petit peu comme ça quand on va au cinéma. Voilà, c'est comme ça, c'est normal. Ouais. On est là, on suit l'histoire, et puis on a des émotions, en fait, qui sortent. Et je trouve que dans les concerts, ça doit être pareil. Et souvent, c'est quand même le cas.
Et je crois que l'improvisation, c'est quelque chose d'important pour vous. Est-ce que l'improvisation sera aussi centrale dans ce programme?
L'improvisation est toujours centrale dans tous nos programmes, soit baroque, soit à la croisée des musiques. En fait, on essaie d'intégrer l'improvisation au plus possible, parce que c'est ça qui fait communiquer vraiment un maximum avec le public d'aujourd'hui.
Et donc chaque concert est vraiment différent. C'est pas le même, c'est pas le même concert que ce que vous avez, même si c'est le même programme.
Oui, tout à fait.
Merci.
D'ailleurs, le public nous dit ça souvent, en fait, ils sont surpris d'écouter, disons, le même programme, mais en fait, ils sont toujours contents et surpris qu'en fait, ils entendent toujours des concerts différents, en fait.
Quelque chose de différent à chaque fois. Merci beaucoup, en tout cas, Christine Aploire, d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler de ce concert. Si vous deviez souhaiter une seule chose pour le public ce mercredi soir à Zanen, ce serait quoi? Une émotion, une sensation, une question peut-être laissée ouverte?
De se régaler déjà de cette musique et de ces virtuoses que j'amène dans ces festivals. Et en fait, de se laisser porter par la richesse de culture en fait, qu'ils vont découvrir.
Merci infiniment, Christine Aploire. Je le rappelle, mercredi prochain à 19h30, c'est à l'église de Zanen, dans le cadre du Gstaad Menuhin Festival, avec votre ensemble, donc l'Arpeggiata, la chanteuse notamment Céline Chin, mais d'autres musiciens, musiciennes également, pour ce programme qui s'intitule La route des Balkans, Escape to Exile, pour dire l'exil, donc le métissage, la beauté aussi des traditions musicales croisées. On vous souhaite une excellente journée puis un très bon concert.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci, bonne journée. Au revoir.
Dici cancella sta compagna vostra, c'aggio portato suoni a fantasia, che penso sempre che tutta vita mia io non ciò volesse dicere. Ma non ci saccio di, ma voglio bene, voglio ben assai, dici tancelle voi, che non mi scordo mai. Dici t'ancella che una rosa è maggio, che assai più bella è una giornata di sola, da bocca soia, più fresca di fiora, e già volesse sentire che innamora di me.
Et c'était la voix du contre-ténor Vincenzo Capezzuto que nous venons d'entendre avec l'arpeggiata Cristina Plouard à la tête de cet ensemble Io te orb dans cette musique de Rodolfo Falvo. C'était Dici Tencello, vous, il y a une chanson napolitaine donc. Et puisqu'on parle de Naples, eh bien, je vous avais promis que je retrouverais le titre de ce concerto pour violoncelle que nous avons écouté tout à l'heure avec Ophélie Gaillard et son ensemble Pulcinella. Je n'en retrouvais pas le nom du compositeur. Il s'agissait donc du concerto en sol majeur et le compositeur en était Nicola Porpora, qui a beaucoup écrit pour le violoncelle. C'était un instrument qu'il aimait particulièrement. Pas étonnant d'ailleurs pour un compositeur qui était également un des plus grands profs de chant. On dit souvent que le violoncelle est très proche de la voix humaine, de la voix de baryton notamment. Thank you. Sébastien Bach, que nous entendions ici, c'était un extrait de la suite pour violoncelle numéro 4 en mi bémol majeur, dont nous avons entendu le prélude avec Jean-Guillain Queyras au violoncelle. Il est 8h43 et vous êtes bien à l'écoute d'RTS Espace 2. Merci d'être à l'écoute de nos ondes ce matin. J'ai des places à vous distribuer pour un concert assez exceptionnel qui aura lieu dimanche 10 août prochain à 19h30 dans la tente du festival Menuhin à Gstaad. C'est un récital de la pianiste Katia Bouniatichvili avec au programme du Schubert, du Chopin, du Mozart, du Franz Liszt. Des places donc pour dimanche 10 août prochain à 19h30 dans la tente du festival. Si vous souhaitez obtenir ces places, écrivez sans tarder à musicmatin@rts.ch. musicmatin@rts.ch. Je vous dis sans tarder parce que généralement, ce sont des places qui partent très vite. C'était un cantabile molto legato. Nous avons entendu extrait des Musica Ricercata de Gheorghe Ligeti, qu'ils ont composé entre 1951 et 1953 en Hongrie, alors sous un régime communiste assez rigide, dominé par la doctrine donc socialiste. Et les autorités culturelles interdisaient à cette époque toute expérimentation formelle ou des abstractions musicales. Il fallait écrire une musique bien tonale pour optimiser, pour que ça soit accessible au peuple. Or, ces Musica Ricercata sont totalement expérimentales. Elles reposent sur des restrictions progressives de hauteur, une note dans la première pièce, puis deux dans la deuxième, etc., etc. Et puis harmoniquement, ce sont des pièces audacieuses avec des dissonances, des rythmes déstructurés et surtout non conformes au canon officiel. Ligeti lui-même a raconté que cette œuvre a été gardée dans un tiroir et pas jouée publiquement en Hongrie à l'époque parce qu'elle aurait été perçue comme décadente ou trop formaliste. Et nous entendions Katia Bunyatishvili au piano dans cette œuvre. Il est 8h48 et vous êtes bien sur RTS Espace 2.
Thank you.
Et c'était le dernier mouvement du trio de l'archiduc opus 97 de Beethoven dans l'interprétation des complices Emmanuel Ax, Leonidas Kavakos et Yo-Yo Ma, un extrait du projet Beethoven for Three. Alors on va changer de décor à présent, on quitte les salons viennois pour les plaines arides de Castille en compagnie de Don Quichotte de la Mancha. Maurice Ravel compose en 1932 ses trois chansons de Don Quichotte à Dulcinée sur des poèmes de Paul Morand. Ce sont trois petites miniatures, à tour à tour bravage, tendre, assez mélancolique aussi. Tout simplement l'image de ce chevalier errant, amoureux d'un idéal plus grand que lui. C'est donc Don Quixote à Dulcinée de Ravel.
Si vous me disiez que la terre a tant tourné vos enfants, ça, je lui dépêcherais pour ça. Vous la verriez fixée sur terre. Si vous me disiez que la nuit vous vient du ciel trop fleuri d'astres, déchirant les divins cadastres, je faucherai d'un coup la nuit. Si vous me disiez que l'espace est si vide et ne vous plaît point, chevalier Dieu, la lance au poing, j'étoilerai le vent qui passe. Mais si vous disiez que mon sang est plus à moi qu'à vous, madame, je blêmirais dessous le blâme. J'amourais vous bénissant. Ô Dulcinée. Saint-Michel, veuillez descendre
Et c'est Gerald Finley que nous entendions avec Julius Drake dans cette musique de Ravel, Don Quichotte.